Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, ce 15 juillet ne sera pas en direct de la Calade puisqu'il y fait un temps épouvantable avec des rafales de vent à plus de 100 à l'heure. Donc nous nous sommes rapatriés dans la salle vidéo devant une assistance un peu clairsemée et pour cause, et la température et peut-être les événements d'hier soir sur lesquels on ne peut pas passer comme ça aussi facilement bien sûr, puisque... pour mémoire, comme dirait l'autre, à Nice, il s'est passé des choses épouvantables qui auraient pu se passer aussi bien à Avignon. Et je crois que nous sommes tous conscients et très, très, voilà, très frappés, très choqués par cet événement. Ce qui ne doit pas nous empêcher de continuer d'abord de vivre et de nous intéresser aux choses de l'esprit, de l'histoire et du théâtre. Voilà. Et donc aujourd'hui, avec nous, dans cette maison de Jean Villard, nous recevons une amie de la maison, Florence Nogret, professeure d'université, mais qui est au-delà de ça, et naturellement une complice, une amie, et qui accompagne la maison Jean Villard dans son activité, puisqu'elle appartient également à son conseil d'administration. Florence Nogret est l'auteur d'un très joli petit mais grand livre aux éditions Ides et Calandes qui s'intitule « Le théâtre de Victor Hugo » et c'est de cela dont nous allons nous entretenir quelques instants avec elle aujourd'hui. Alors j'ai envie de commencer, ma chère Florence, par le théâtre de Victor Hugo, mais c'est peut-être aussi Victor Hugo et le théâtre, ce petit livre.
Oui, parce qu'il ne s'agit pas seulement des pièces que Hugo a écrites, hein. Il s'agit aussi de son investissement dans la vie culturelle, théâtrale, au premier chef, parce que c'était au XIXe siècle, au théâtre, qu'on se faisait vraiment de la gloire, hein, qu'on était connu de tous. Et Hugo a travaillé aussi, pas seulement pour son propre compte, a essayé de réformer le théâtre de son temps, l'institution théâtrale de son temps, le public de son temps. Et donc, même dans les époques de sa vie où il n'a pas été joué, par exemple quand il était en exil, ou par exemple quand il était pair de France, académicien, et qu'on ne jouait plus ses pièces, mais qu'il avait un rôle politique, il s'est intéressé à la politique théâtrale, à ce qu'on appellerait nous aujourd'hui la politique culturelle.
Alors, c'est quoi le théâtre au XIXe siècle? Qu'est-ce que c'est? C'est une grande tribune, le boulevard du crime, c'est Hollywood, c'est la Paris et la ville lumière. Je me souviens qu'à la fin de son introduction du centenaire Hugo, Jacques Zébacher avait terminé par « Victor Hugo a inventé le cinéma ». Est-ce que vous voyez mon propos, enfin ma question
oui.
En tout cas?
Bah, c'est-à-dire que le théâtre au XIXe siècle, c'est le divertissement presque unique. Nous avons aujourd'hui la télévision, le cinéma, les jeux vidéo, tout un tas de Internet. Hein, mais au 19e siècle, pour ceux qui ne savent pas lire, le théâtre, c'est le divertissement. Donc les gens allaient beaucoup au théâtre. Même dans les campagnes, il y avait des troupes itinérantes. Dans les grandes villes de province, il y avait un ou deux théâtres. Dans les grandes villes de province où il y avait deux théâtres, l'un jouait les grands genres, ceux qu'on jouait à Paris sur les scènes subventionnées, comme l'Odéon, la Comédie française, l'Opéra, l'Opéra comique, et l'autre théâtre jouait les genres plus populaires, comme le mélodrame, la féerie, le vaudeville. Mais la programmation changeait à toute vitesse, hein, puisque une même personne voulait aller au théâtre peut-être deux fois dans la semaine. Donc il fallait que les théâtres eux-mêmes changent leur programmation très rapidement. Donc là où nous voyons des spectacles à succès qui en sont à leur 500e, eh bien au 19e siècle, un spectacle à succès, c'est qu'il avait joué 33, 34, 40 fois, pas davantage. Les gens allaient énormément au théâtre. Et là où Hugo a eu une importance, pas lui tout seul, mais tous les romantiques, c'est qu'ils ont essayé, en tout cas, de changer la sociabilité du théâtre, c'est-à-dire de changer le fait que les théâtres étaient quand même assez cloisonnés socialement. C'est-à-dire qu'il y avait des théâtres qui étaient subventionnés avec donc des moyens très importants pour la musique, pour la danse, pour le décor, et qui étaient plutôt réservés à une élite culturelle, donc l'aristocratie ou la grande bourgeoisie, et où on jouait les grands genres, et puis d'autres théâtres où on jouait des genres plus populaires et qui, eux, n'étant pas subventionnés, étaient évidemment moins riches en moyens, plus simples. Et ce qu'ont essayé de faire les romantiques, c'est de fusionner les publics. Et donc, c'est pour ça qu'on parle du mélange des genres. Généralement, quand on parle du théâtre romantique et de Victor Hugo, on dit le mélange des genres. C'est pas tellement le mélange des genres en soi au départ qui les intéresse, ce qu'ils ambitionnent, c'est de fusionner les publics en un public qui soit un public national. C'est pour ça que Hugo est un des jalons du théâtre national populaire.
Nous répétons souvent dans nos milieux la préface de Lucrèce.
De Lucrèce Borgia, oui.
Voilà, où il emploie les trois mots, théâtre national et populaire.
Oui, oui, oui.
Et universel, il dit aussi.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire que cette ambition-là, en fait, ils n'ont pas vraiment réussi à la mettre en œuvre. Ils ont réussi à la mettre en œuvre de manière très temporaire dans un théâtre qu'ils ont créé de leurs propres mains, pratiquement. Le théâtre de la Renaissance, en 1838, qui a été inauguré par Ruy Blas. Et d'une certaine manière, on peut dire que Ruy Blas, c'est la pièce idéale de Victor Hugo. C'est celle, d'ailleurs, dans laquelle les genres se mélangent le mieux. On y a vraiment de la tragédie, du drame, du mélodrame, de la comédie, de manière très, très homogène, enfin assez homogène et fluide, voilà. Là où, dans d'autres pièces, on a des moments de tragédie, des moments de drame, des moments de mélodrame, de manière peut-être un peu moins fondue. Mais Ruy Blas, c'est la pièce qu'il a faite pour le public idéal qu'il ambitionnait, c'est-à-dire celui qui ne mélange pas, enfin celui qui ne sépare pas plutôt, qui mélange sans distinction tous les types sociaux de public, c'est-à-dire à la fois le peuple qui va au boulevard du crime, dont tu parlais tout à l'heure, et celui et le public de la comédie française.
Et Villard ne s'y trompe pas avec Gérard, avec Philippe, il montre Ruy Blas, il montre Pernani.
Oui, c'est vrai. Il ne s'y trompe pas. J'avais jamais pensé à ça.
Mais je te remercie. Nous sommes géniaux ce matin.
Villard monte Ruy Blas et Marie Tudor. Marie Tudor qui est aussi une tragédie dans un style de mélodrame. Mais il ne monte pas Hernani, et tu as raison. Hernani, en fait, de toutes les pièces de Victor Hugo, c'est celle où le mélange des genres opère le moins. Il y a un petit peu de comique, très légèrement. Au tout début, il y a la corruption de la duègne par le roi. Donc ça, c'est un ressort de farce ou de comédie Adelhart. Il y a l'amant, enfin le roi caché dans le vaudeville comme un amant, caché dans le placard comme un amant de vaudeville. Il y a le courtisan qui se ridiculise aussi. Bon, et puis c'est tout. Aussi, on a quand même Don Ruy Gomez qui est un personnage à la fois de barbon de comédie et de père noble de tragédie. Mais enfin, ce sont quelques tout petits ingrédients de mélange des genres. Globalement, c'est une tragédie. Et juxtaposé. Mais globalement, Hernani, c'est une tragédie. Donc quand on demande aux élèves, par exemple, analyser le mélange des genres dans Hernani, on les met en difficulté. En fait, il n'y en a pas tellement. En revanche, analyser le mélange des genres dans Ruy Blas, alors là, c'est très facile. Hein. Oui, ça marche.
Alors, on dit Ruy Blas, on dit Hernani, on dit Marie Tudor. Ce sont d'abord de très grands rôles. Ce sont des pièces qu'on ne monte pas si on n'a pas le comédien pour jouer Hernani ou pour jouer Ruy Blas. Il écrit pour les acteurs, Hugo. Il a une conscience de ce que c'est qu'un comédien. C'est quelque chose qui le touche, dont il a souci.
Ah oui, Hugo, parmi ses congénères du drame romantique, c'est un de ceux qui écrit le plus pour les acteurs. C'est-à-dire que à partir de Marion Delorme, donc sa deuxième très grande pièce, disons, il sait à peu près à qui il va donner le rôle. Et donc il écrit un peu sur mesure pour les acteurs. Par exemple, pour Frédéric Lemaître, qui joue le rôle de Ruy Blas, ou pour Mademoiselle Mars, qui joue le rôle de Donia Sol. Oui, oui. On dirait presque aujourd'hui que c'est un écrivain de plateau. Oui. Il écrit pour l'acteur, il écrit aussi des décors qu'il prévoit, qu'il dessine dans ses manuscrits et qui sont des aires de jeu dans lesquelles quelque chose doit se passer, qui sont des espaces souvent machinés, pas simplement décoratifs, hein, qui commandent un certain type d'action. Et oui, il écrit pour les acteurs. On le voit bien quand on étudie la critique dramatique de l'époque. La critique le dit. La critique le dit que c'est fait pour des très grands acteurs. C'est ça qui rend aussi ce théâtre assez difficile à interpréter. Bon, moi, j'ai étudié le théâtre à Rouen au XIXe siècle parce que j'habite Rouen. J'ai été professeure à Rouen pendant des années. Et donc, je me suis intéressée à la manière dont on jouait à Rouen à cette époque-là. Et on voit bien que les acteurs du Théâtre des Arts de Rouen, qui sont des acteurs recrutés sur une grille d'emplois très stricte. Il y a les emplois de comédie, il y a les emplois de tragédie, et on est recruté pour jouer soit un emploi de tragédie et un emploi de tragédie bien particulier, le conseiller, le père noble, ou bien la reine, ou bien la confidente, ou bien on est recruté pour jouer des emplois de comédie, le serviteur, la servante, la jeune première, le barbon. Eh bien, ces acteurs des théâtres de province, ils sont très embarrassés pour jouer les grands rôles du théâtre romantique. Pourquoi ? Parce que les grands rôles du théâtre romantique, généralement, mélangent deux emplois. Un emploi de tragédie, un emploi de comédie, ou un emploi de tragédie, un emploi de mélodrame. Bon, bah, c'est le cas, par exemple, avec Henri Gomez, dont je parlais tout à l'heure, dans Hernani. Lui, c'est à la fois un père noble de tragédie, comme Don Diègue, dans Le Cid, ou comme le vieil Horace, dans Horace. Et c'est aussi un barbon de comédie, comme Arnolphe, dans L'école des femmes. Et donc, bah, au moment de la création, c'est Johanny, qui jouait les pères nobles à la Comédie française, qui joue d'Henri Gomez, mais c'est un très très grand acteur. Il est capable de faire le barbon, même s'il a l'habitude de jouer les pères nobles. Mais dans les petits théâtres de province, hein, c'est beaucoup plus difficile pour les acteurs. Et ils reprochent, enfin les acteurs eux-mêmes, et du coup les critiques dramatiques, reprochent un peu aux auteurs, à Dumas, à Hugo, d'avoir créé des types mixtes. C'est la même chose pour Dumas d'ailleurs, son grand succès, c'est Anthony, qui est un rôle à la fois de jeune premier et de traître, hein, puisqu'il tue. L'acteur à Rouen qui doit jouer Anthony est complètement perdu, parce que lui, il a l'habitude de jouer les jeunes premiers, il ne sait pas jouer les traîtres, hein, donc il n'est pas très bon dans le rôle, et il se plaint en disant « mais c'est pas de ma faute, Monsieur Dumas a écrit ce rôle pour Bocage, donc qui est le grand acteur romantique qui a créé, et moi, je n'ai pas le talent de Bocage, je ne peux pas ».
Alors, théâtre d'acteur, avec un écrivain qui en a le souci, évidemment, et un écrivain qui est aussi... je sais bien que la notion de metteur en scène n'existe pas, mais en tout cas, qui a le souci du décor, de l'architecture. J'ai eu la chance de travailler sur 1000 francs de récompense jadis, et je me souviens, dans le manuscrit, non seulement il dépeint en didascali le décor, mais il le dessine, et c'est très, ça a l'air très très précis chez lui. Donc, il est un metteur en scène en puissance, en fait.
Oui. Du reste, aujourd'hui, on relativise un petit peu la coupure qu'on a longtemps faite dans l'histoire littéraire ou dans l'histoire du théâtre. Une coupure qui ferait commencer la mise en scène et le rôle du metteur en scène, qui serait un rôle unifiant, disons, à la toute fin du 19e siècle avec Antoine. Hein, on a longtemps dit qu'en France, c'est Antoine le premier metteur en scène. Mais en fait... L'histoire du théâtre, telle qu'elle s'est développée depuis quelques dizaines d'années, fait apparaître que la régie a toujours existé. Depuis le début du théâtre, la régie existe. Mais même la mise en scène au sens plus immatériel d'interprétation du texte, elle commence déjà avec certains auteurs de théâtre qui veulent tout maîtriser de la manière dont on joue. Et ces premiers auteurs de théâtre qui veulent vraiment maîtriser le spectacle, ce sont les auteurs de mélodrames à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, avec un auteur qu'on redécouvre maintenant, qu'on est en train d'éditer, Pixérécourt, qu'on ne joue pas, hein, qu'on ne joue plus, mais qui était un très très grand auteur de mélodrames, c'est-à-dire de pièces à grand spectacle et en musique, conçues, enfin écrites pour le plateau. Par leur auteur. Et du reste, Pixérécourt a été copié parfois certaines pantomimes, c'est-à-dire certains déplacements où il n'y a pas de texte, hein, mais où quand même il y a une action muette, ou bien certains clous de mise en scène, un déluge par exemple, ou une explosion volcanique, décrits minutieusement par lui en didascalie, ont été repris par d'autres, et lui il a demandé des droits d'auteur.
Sur les effets scéniques.
Oui, des droits d'auteur sur les effets scéniques. Et Hugo, qui aimait beaucoup le mélodrame, hein, qui y allait quand il était petit, qui y retourne après tout du long de sa vie, je le sais parce que comme j'ai dit que la correspondance de Juliette Drouet, où tous les jours elle raconte son emploi du temps, eh bien on sait du même coup ce que Hugo va voir au théâtre, puisque elle, le lendemain matin, elle en parle dans la lettre quotidienne qu'elle lui écrit. Et c'est comme ça que j'ai pu voir que, en fait, il va voir beaucoup de spectacles populaires. Il ne va pas qu'à la Comédie française ou à l'opéra, il va à l'Ambigu, aux Variétés, à la Gaîté, et il va voir beaucoup de spectacles populaires, dont des mélodrames. Et lui-même, il a une imagination scénique, comme tu disais, hein, puisque, effectivement, en marge de ses manuscrits, il y a des croquis de décors, et il a une imagination scénique qui est assez mélodramatique parce qu'il prévoit des lieux, comme je disais tout à l'heure, qui ne sont pas seulement des décors, par exemple un palais pour une scène où il y a un roi et son confident, qui sont vraiment des lieux qui commandent un certain type d'action.
Pour nos auditeurs et pour nos amis qui sont présents, est-ce que tu peux préciser la notion de mélodrame ? Je pense que c'est important pour bien comprendre,
oui.
Hugo.
Mm-hmm. Le mélodrame, c'est un genre qui est apparu en France, grosso modo, juste avant la Révolution française, qui s'est énormément développé pendant la Révolution française, qui était un genre populaire, accessible à tous, avec des intrigues qui sont simples. Bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, l'intrigue consiste en une menace qu'un traître fait peser sur une famille ou sur un État, une famille unie ou un État stable, solide. Et puis lui vient menacer cette concorde, cette paix. Il la menace par le rapt, par le chantage, par le crime, par l'extorsion de fonds. Et puis, au bout du compte, le bien triomphe. Le bien triomphe, représenté soit par un justicier qui arrive et qui élimine le traître, soit par un des personnages qui avait été martyrisé, soumis à du chantage par le traître, et qui arrive à s'en sortir et à rétablir la situation. Et donc, au bout du compte, tout est sauvé. Et c'est un genre assez peu littéraire, avec des dialogues assez sommaires, avec beaucoup d'exclamations, un genre très pathétique dans l'émotion, accompagné de musique, d'une musique. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle mélodrame. En fait, mélodrame, ça veut dire drame en musique. Accompagné d'une musique qui est une musique qui joue sur plusieurs registres. D'une part, on a une musique d'ambiance, une musique d'atmosphère reconnaissable. Donc, quand le bonheur arrive, on a une petite ritournelle. Quand le traître arrive et qu'un grand danger pèse, alors on a des roulements de tambour. Et puis, parfois, la parole est entrelacée de musique. Et la musique est très spectaculaire. C'est un genre qui est spectaculaire à la fois dans le décor, dans les effets spéciaux et dans la musique.
C'est de la tragédie musicale.
Oui.
Comme il y a de la comédie musicale.
Oui, en quelque sorte. Et donc ça impressionne beaucoup les contemporains. C'est le genre que tout le monde va voir. Et on a tendance, dans l'enseignement, aujourd'hui, quand on parle du théâtre du 19e siècle, à oublier ce genre. On comprend bien pourquoi on l'oublie. Parce qu'on ne peut pas tout apprendre aux élèves. On a déjà pas beaucoup d'heures de cours à leur faire. Donc il faut bien leur faire des heures sur les grandes œuvres, sur Ruy Blas, sur Hernani, sur Lorenzaccio, sur quelques pièces de Labiche ou de Feydeau. On n'a pas le temps de parler du mélodrame. Mais de fait, la référence de tous à cette époque-là, c'est le vaudeville dans la tonalité comique et le mélodrame dans la tonalité tragique, mais qui se termine bien. Et ça plaisait beaucoup aux gens parce que c'était rassurant aussi. Le fait que ça se termine bien, que la vertu finisse toujours par l'emporter, ça, c'était décisif pour que les gens aient envie d'aller le voir. Ils ont envie de rejouer, en quelque sorte, les peurs de la Révolution française. C'est Naudier qui a dit que le mélodrame, c'était la moralité de la Révolution française. Qu'est-ce qu'il entendait par là? Il entendait par là qu'on rejoue la peur d'une nation qui va se diviser. Oui. Parce que c'est ça, dans le mélodrame, c'est la peur de l'implosion de la petite famille ou de l'État. Et puis, au bout du compte, on se ressoude. Au bout du compte, à la fin, on peut faire confiance à la Providence ou à la police, à la justice, à l'Église, enfin une instance quelconque qui vient rétablir le juste, le vrai, le bien. Alors, ça impressionne beaucoup les romantiques qui sont dans cette esthétique-là. Mais ce que Hugo apporte par rapport au mélodrame, là où il infléchit en quelque sorte l'esthétique du mélodrame, c'est que chez lui, comme d'ailleurs, comme chez Dumas, comme chez Vigny, souvent, bien souvent, ça se termine mal. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la Providence qui vient sauver les choses à la fin. Et c'est ça qui fait aussi que ça a choqué à l'époque. C'est-à-dire que c'est une esthétique du mélodrame qui s'invite sur les grandes scènes, oui, à la Comédie française, par exemple, et qui se termine mal.
Et qui est détournée.
Et qui se termine mal. Et donc, beaucoup de critiques ont jugé que c'était immoral, que le drame romantique était immoral parce qu'il ne laisse pas les spectateurs repartir avec un sentiment de pacification.
Alors, dans quel où places-tu le théâtre dans l'œuvre de Hugo? Enfin, comment s'en sert-il du théâtre? C'est une arme esthétique, bien sûr, on le sait, mais c'est aussi un instrument de son ambition, de sa contestation du monde, c'est un outil politique. Parce qu'il touche à tous les genres, hein, poésie, roman, essai, enfin vraiment, il est un génie absolu et total. Alors, dans cette constellation d'instruments qui sont à la portée de sa main, le théâtre, c'est quoi?
Le théâtre, c'est une tribune beaucoup plus large que les autres genres. Mais c'est une tribune qu'il n'a pas toujours utilisée, qu'il n'a pas toujours pu utiliser.
Oui, voilà. Absolument.
Il y a un peu deux phases.
Il y a des saisons.
Il y a des saisons dans sa carrière théâtrale. On voit bien qu'au début, quand il est jeune, c'est par le théâtre qu'il a envie d'être connu, qu'il a envie d'acquérir la gloire. Quand on lit un très bel ouvrage qui a été écrit par sa femme pendant l'exil, Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie. Donc ça, c'est une sorte d'autobiographie écrite par quelqu'un d'autre, écrite par un tiers. Donc c'est sa femme qui passe ses soirées d'exil à écrire la biographie de son mari. C'est à la fois une biographie, puisque c'est elle qui écrit la vie de quelqu'un d'autre, et c'est une autobiographie dans la mesure où elle l'écrit un petit peu sous sa dictée. Ce sur quoi elle insiste, c'est le théâtre, de manière tout à fait disproportionnée. C'est-à-dire qu'elle raconte la vie de Hugo depuis son enfance jusqu'à l'accession à l'Académie française, 1841. Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas au-delà? Parce qu'après, la grande date, c'est 1843. Et 1843, c'est la mort de Léopoldine, oui, leur fille. Et donc ça, c'est indicible, elle n'en parle pas. Et donc dans toute cette première phase de la vie de Hugo, donc quand il est jeune, quand il a entre 25, 30 jusqu'à 40 ans, eh bien, ce dont elle parle principalement, c'est le théâtre, parce que c'est au théâtre qu'on acquiert vraiment la célébrité, la gloire, une très grande notoriété. Et Balzac, par exemple, qui est si connu pour ses romans, lui, ce qu'il a toujours voulu, c'est être connu au théâtre. Il a écrit des pièces de théâtre, il a fait jouer des pièces de théâtre. C'est pas par là qu'il est devenu célèbre. Donc, c'est vraiment une question de notoriété au départ. Il y a cette idée aussi qu'on touche tout le monde, dont je parlais tout à l'heure. Et pour Hugo, il faut que le théâtre livre une moralité, pas forcément une leçon définitive. La plupart de ses pièces se terminent de manière assez ouverte. Mais il s'agit de poser des questions de philosophie politique dans ses pièces. Je vais en donner quelques exemples, si tu veux. Dans Cromwell. Dans Cromwell, de quoi est-il question? Cromwell, c'est un révolutionnaire dont le parti a mis fin à la monarchie et qui est tenté lui-même à son tour par la fondation d'une nouvelle monarchie et à qui on propose la couronne. Quand donc serais-je roi, dit-il à la fin, il est obligé de renoncer à son ambition monarchique parce qu'il a bien compris qu'il allait être liquidé des deux côtés. Du côté des partisans de la monarchie qui a été décapité comme un traître et un usurpateur, et puis de l'autre côté, du côté de ses propres partisans, qui considèrent que si à son tour, ils fondent une nouvelle monarchie, il a trahi leur cause. Qu'est-ce que ça dit, cette pièce, cette très belle pièce, qu'on pourrait jouer, du reste, qu'on joue d'ailleurs,
oui,
parfois.
Avec des échos d'actualité assez incroyables.
Voilà, c'est ça. Ça pose la question de la possibilité de rester fidèle à son idéal quand on accède au pouvoir, quand on est un révolutionnaire qui accède au pouvoir. Et c'est la même question que pose Nerval dans une pièce au sujet très proche qui s'appelle Léo Burkhardt, qui est une pièce que Nerval a écrite en collaboration avec Dumas. C'est la même problématique. Ça, c'est une question de philosophie politique qui, au-delà de l'histoire anglaise du XVIIe siècle ou de l'histoire du XIXe siècle qu'a pu connaître Hugo, se pose encore aujourd'hui. Dans Hernani, il y a une autre question de philosophie politique qui se pose. Hernani, le héros, est exilé à la suite de son père, qui a été exilé par le père de l'actuel roi. Donc il y a une sorte de transmission du père au fils d'une cause politique. Et par fidélité à son père, à la mémoire de son père, Hernani va promettre à Don Ruy Gomez de se tuer. Donc il passe le serment de se sacrifier au nom du père, au nom de son propre père et au nom des aïeux de Don Ruy Gomez. C'est sous une galerie de portraits où il y a tous les aïeux héroïques de Don Ruy Gomez. Et à la fin de la pièce, il se suicide pour être fidèle à son serment. Et Doña Sol, sa fiancée, lui dit « Ce serment ne vaut rien. » Alors, quand on étudie ce passage, souvent on a tendance à dire « Oh, ben, Doña Sol, c'est une pauvre femme, elle est à la veille de sa nuit de noces, évidemment, elle n'a pas du tout envie de voir son fiancé se suicider. » Donc elle lui dit « Ton serment ne vaut rien, mais parce que c'est une femme, elle n'y connaît rien à l'honneur. » Pas du tout. Doña Sol, c'est une grande dame, une de très haute naissance espagnole. Elle y connaît quelque chose, aux lois de l'honneur. Si elle lui dit ce serment ne vaut rien, c'est peut-être qu'elle a raison. Peut-être que ce serment ne vaut rien, parce que c'est un serment qui a été passé sous la contrainte et un serment par lequel on se condamne à mort. On se condamne soi-même à mort pour épouser la cause de ses aïeux, de ses ancêtres. Ça, c'est une belle question. Est-ce que ça vaut la peine de se condamner soi-même à mort pour épouser la cause de ses aïeux ou de ses ancêtres ? Je ne sais pas. Mais c'est une question ouverte, qui reste ouverte à la fin de la pièce. Et dans Ruy Blas, la question qui se pose, c'est est-ce que l'homme du peuple qui a les capacités pour exercer le pouvoir, est-ce qu'on lui donne jamais vraiment la possibilité de le faire, même s'il en a le droit, est-ce qu'il réussit ? Est-ce qu'il réussit de fait à s'introduire dans l'espace politique de l'élite pour faire valoir ses droits et ses talents ? Et ça, c'est une question de philosophie politique, au fond, qui est toujours valable. Je crois que c'est pour ça qu'on aime encore aujourd'hui et qu'on joue encore ce théâtre historique.
Dans ces outils qu'on évoque à grands pas, là, la prose et le vers, est-ce qu'il y a, chez Victor Hugo, je m'attends à une très intéressante réponse, car je pense qu'il y a un choix, le choix des armes. Alors, il choisit la prose quand ? Il choisit le vers quand ?
Au début, il en tient pour le vers. Hein. Et donc, il écrit toutes ses premières pièces en vers. Hein. Myropsar, Cromwell, Marion Delorme, Hernani, Le Roi s'amuse. Il écrit en vers précisément pour garder au théâtre une certaine qualité qu'à cette époque-là, qui à cette époque-là est quand même mise en péril par un théâtre populaire pour lequel il a un rapport ambivalent, hein, à la fois d'admiration pour le côté spectaculaire, pour la puissance émotive, hein, du mélodrame, et de l'autre, une certaine méfiance, parce que ce peut être aussi un théâtre d'adhésion assez vulgaire. Et donc, il y a une exigence esthétique qui est celle du vers, qu'il essaye de maintenir le plus longtemps possible. Mais à partir du moment où il se rend compte qu'il veut toucher un vaste public qui, lui, depuis des décennies, ne va plus jamais entendre des vers, hein, n'a plus les vers dans l'oreille, alors, quand en 1833, il quitte la Comédie-Française pour la Porte Saint-Martin, où il monte en 1833 deux pièces, Lucrèce Borgia et Marie Tudor, alors il abandonne le vers. Mais là, il crée une prose, qui est une prose dramatique très travaillée. Et quand on étudie la différence entre la prose des drames de Hugo qui ressemblent à des mélodrames et la prose du mélodrame, on s'aperçoit qu'il y a quand même une grande différence.
Il y a une
présence de la prose, il y a des formules très spirituelles aussi. Hein. Dans Lucrèce Borgia, par exemple, il faut que le diable ait la queue bien attachée au derrière pour qu'elle résiste à tous ceux qui lui tirent, hein, la queue, tirer le diable par la queue, hein, qui veut dire être pauvre, enfin, être dans la misère. Il y a des tas de formules très spirituelles. Ou par exemple, dans Lucrèce Borgia aussi, quand Lucrèce Borgia et le duc d'Este se disputent et que l'un d'eux dit à l'autre « mais vous m'avez fait un serment » et l'autre répond « mais les serments, cela est bon pour le peuple ». Donc on n'y croit pas, hein. C'est bon qu'à ceux qui veulent bien y croire, hein, qui sont assez dupes pour y croire. Donc c'est une prose quand même qui est très travaillée, qui est très flamboyante.
J'avais un ami comédien qui n'est plus, mais qui me disait qu'il éprouvait le même plaisir à dire Claudel et Hugo, et c'est que les deux présentaient les mêmes difficultés, et lorsqu'on les dominait, lorsqu'on les maîtrisait, apportaient les mêmes plaisirs d'acteur, parce que c'est une prose très... Il ne parlait pas du vers, hein, il parlait de la prose, et une prose très lyrique, très chantée, avec une oralité très particulière, et je crois qu'il a raison, enfin c'est... Quand on le dit à haute voix, d'ailleurs, même en n'étant pas comédien professionnel, on ressent ça, ce mâchonnement incroyable.
Oui, oui. Mais du reste, c'est une prose tellement riche que Villard, dans Marie Tudor, parce qu'évidemment, donc Villard monte Ruy Blas et Marie Tudor, il ne peut pas toucher aux alexandrins de Ruy Blas, Enfin, on peut toujours toucher aux alexandrins, mais enfin, c'est assez difficile parce qu'il faut refaire un autre alexandrin. Ou bien, si on en supprime un, il faut en supprimer quatre, hein, puisqu'il y a l'alternance des rimes féminines et masculines. Donc, on est obligé d'enlever des blocs de quatre. C'est pas toujours facile. En revanche, avec Marie Tudor, Jean Villard s'en donne à cœur joie dans le texte et coupe, supprime beaucoup d'adjectifs, beaucoup d'adverbes. Bon, tout ce qu'on reproche à la langue romantique, hein, ce côté un peu fleuri de la langue romantique qui consiste à ajouter des adverbes aux verbes et des adjectifs au nom. Et Villard dégraisse beaucoup cette langue en enlevant particulièrement le pathétique. Il le fait aussi bien sur Marie Tudor que sur Lorenzaccio, du reste. Hein. C'est le même genre
Alors, expérience pour expérience, comme tu le sais, j'ai travaillé Mille francs de récompense. Oui. Et lorsque nous l'avons produit au théâtre avec ma sœur Arlette, on a fait une régie du texte, pas une adaptation. Mais on a beaucoup coupé, parce qu'il y a beaucoup de répétitions. Mmh. Et moi, j'ai toujours pensé que, en fait, Hugo avait peut-être affaire, cette pièce n'a jamais été jouée de son temps, mais peut-être pensé qu'il avait affaire à un public peut-être inattentif, et qu'il fallait répéter ce qui s'était passé pour que ça rentre bien, quoi. Et c'est vrai qu'on a donc, nous aussi, dégraissé, je le crois, sans mutiler du tout la pièce, et que ça lui a donné une nervosité, une modernité, dirons-nous, parce qu'il y a quand même un ton d'époque aussi, quand même, qui joue, bien sûr.
Oui. C'était le cas, le public était tout à fait inattentif. Le public commence à devenir inattentif à la fin du 19e siècle, où là, pour le coup, ce qui change techniquement, c'est l'éclairage. À partir du moment où la salle était éclairée encore, le public était inattentif, le public parlait. On le voit même dans les tragédies classiques, il y a ce qu'on appelle la double exposition, c'est-à-dire que dans une tragédie classique ou dans une comédie classique, il y a toujours deux fois l'exposition, pour que le public qui n'a pas été suffisamment attentif la première fois ait une chance de se rattraper à la seconde.
On le voit bien, les Enfants du Paradis, hein. Vogel, on n'entend pas la pantomime.
Oui.
Il y a deux théâtres aussi dans Victor Hugo. Il y a un théâtre de ses débuts et celui de vers la fin. Mm-hmm. Et celui qui est vers la fin est dit en liberté. Est-ce à dire que le précédent ne l'était pas ?
C'est-à-dire que la différence est énorme. Oui, le précédent est forcément un peu contraint puisque dans les années donc 1828, 1843, qui sont la première phase du théâtre de Victor Hugo où Hugo écrit pour la scène. Comme tous ses camarades de l'époque, écrire pour la scène, c'était écrire dans un premier temps. Il y avait trois interlocuteurs successifs. Premier interlocuteur, le comité de lecture des théâtres qui acceptait ou non la pièce. Deuxième interlocuteur, une fois que le comité de lecture avait accepté la pièce, la censure qui acceptait la pièce ou la refusait ou l'acceptait à correction, c'est-à-dire à condition de pratiquer certains changements sur deux sujets, politique et moral. Et le troisième interlocuteur destinataire, c'était le public. Donc la censure, elle était prise en considération nécessairement au moment où on écrivait. Il fallait soit lui plaire, soit la contourner d'une manière ou d'une autre. Tandis que sous le Second Empire, quand Hugo écrit la deuxième phase de son théâtre, celle qu'on appelle le théâtre en liberté, du nom d'un titre qu'il avait lui-même envisagé à un moment, un autre titre qu'il avait envisagé à un autre moment, c'était la puissance des faibles. Et ça, la puissance des faibles, c'est le thème commun à la plupart des pièces du théâtre en liberté. Oui. Les plus célèbres aujourd'hui, c'est « Mangeront-ils 1000 francs de récompense que tu as monté et « L'intervention ». Donc, pendant l'exil, comme il n'est plus joué en France, il est censuré, hein, les théâtres ne le jouent pas. C'est pas à Guernesey ou à Jersey qu'il va faire jouer son théâtre. Donc, il écrit pour que ce théâtre soit joué un jour, mais en tout cas, il n'a pas du tout la censure en ligne de mire. Du reste, à un moment, il est question en France, à la fin du Second Empire, quand la censure est moins forte, hein, quand la liberté quand même d'expression a été en partie rétablie, il est question de faire jouer 1000 francs de récompense. Et Hugo dit ça serait tout à fait jouable d'un point de vue esthétique, il y aurait le public pour, c'est un mélodrame hein, dans sa forme, mais il y a quand même une critique du système de la justice de l'époque qui est tellement forte que certainement ça ne passerait quand même pas au bout du compte la censure. Donc il écrit en liberté parce qu'il n'a pas besoin, c'est un peu paradoxal, en liberté mais sans public, oui, mais sans avoir à se préoccuper de la censure.
C'est un théâtre qui va rester dans un coffre, hein. C'est un oxymore, quoi. Théâtre en liberté, enfermé. En
fait. Oui, oui, oui. C'est la première édition posthume, en fait, hein, après la mort de Hugo en 85. Et ben, le premier ouvrage qui paraît après sa mort, c'est les pièces en vers du Théâtre en liberté en 86. Et puis, les pièces en prose du Théâtre en liberté seront redécouvertes plus tard. Beaucoup et c'est tard. C'est un corpus qui est vraiment mis au jour par les metteurs en scène brechtiens dans les années 60. L'intervention est créée par Patrice Chéreau et Jean-Pierre Vincent au lycée Louis le Grand, oui, au groupe théâtre du lycée Louis le Grand. Et puis, mangeront-ils 1000 francs de récompense sont montés dans des mises en scène brechtiennes, la vôtre, celle du Bergignou. Benoît Besson jouera et 1000 francs de récompense et mangeront-ils. Et c'est un théâtre qui est très brechtien, hein, avec beaucoup de distanciation, avec des personnages qui font des apartés. Ben, par exemple, dans 1000 francs de récompense, on a Glapieux, le héros, qui est un voyou, un voyou justicier, et qui commente. Ça c'est une forme tout à fait brechtienne, hein, de distanciation, que d'avoir une sorte de narrateur qui commente l'action, qui y intervient et puis qui par moments s'en exclut pour la commenter pour le public, hein, avec des remarques satiriques.
Adaptation au cinéma de ce théâtre, c'est une chose que il y a des dates importantes, il y a des moments.
Oui, il y a eu des adaptations au théâtre, hein. Oui, oui. Alors, il y a eu le Ruy Blas, hein, de Cocteau et Pierre Billon, qui est une très belle adaptation, avec Jean Marais qui joue les deux rôles, donc de Ruy Blas et de Don César. Mais globalement, c'est un théâtre qui a plutôt donné lieu à des adaptations à l'opéra, avec Donizetti, oui. Verdi donc le roi Samus qui a donné lieu à Rigoletto, et Rigoletto a dépassé largement en célébrité le roi Samus.
Aujourd'hui, Victor Hugo au théâtre, on parlait dernièrement avec Eric Ruff du projet Comédie Française à Avignon, etc. Hugo ne leur est pas venu à l'esprit. D'après ce qu'ils disent, peut-être que ça les a frôlés, mais en tout cas, ils étaient plutôt shakespeariens, ils étaient, voilà.
Oui, oui, oui. Je pense qu'aujourd'hui, quand on a envie de monter du Hugo, c'est le Théâtre en Liberté qu'on a envie de monter. Oui.
Quelque chose de c'est, mineur. Enfin,
c'est Mangeront-ils.
Apparemment mineur.
Mangeront-ils est beaucoup joué. Il est au festival, là, dans le off. Dans il y a une mise en scène de Mangeront-ils, oui. Aujourd'hui, l'intervention est aussi assez souvent jouée. C'est une pièce qui est très excitante parce que c'est à la fois un vaudeville et un mélodrame. Oui. Alors, le mélange des deux, c'est quelque chose. C'est un vaudeville social, c'est très brechtien. C'est un vaudeville social puisque ça raconte la tentation d'un couple d'ouvriers de se laisser pervertir par un couple lors d'un baron dandy et d'une cocotte, séduit par l'argent, hein, qui leur est proposé. Et puis à la fin, ils se retrouvent. Bon, je raconte pas exactement précisément la fin pour pas ruiner le dénouement, qui est tout à fait splendide. C'est vers ce théâtre-là, je crois, que les metteurs en scène aujourd'hui ont envie de se tourner.
La dernière réplique de 1000 francs de récompense, c'est « La vérité finit toujours par rester inconnue ».
Oui.
Je crois que c'est ça qui excite les metteurs en scène d'aujourd'hui et notre public, puisque justement, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un théâtre extraordinairement ouvert et qui laisse le public à sa propre réflexion
et à sa
recherche.
Tout à fait. Et le dernier vers de Mangeront-ils, adressé aux deux jeunes gens qui ont renversé le roi tyrannique et qui deviennent donc souverains à leur tour, c'est « Soit, mais souvenez-vous que vous avez eu faim ».
Voilà.
Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi une leçon de philosophie politique, que quand on arrive au pouvoir après avoir renversé un régime de dictature et que soi-même on exerce le pouvoir, il ne faut pas oublier d'où on est venu et qui vous a porté au pouvoir.
Est-ce que dans l'assistance, si modérée soit-elle, si modeste soit-elle, il y a une question à adresser à Florence, Mademoiselle Jeanne par exemple, portez un prénom hugolien.
Mademoiselle Jeanne, je sais qu'elle aime beaucoup Molière, hein. Et ce que je voulais lui dire, c'est que souvent, on présente le romantisme comme en opposition avec le classicisme. Et on dit, bon, les romantiques arrivent et eux, ils veulent renoncer aux unités de lieu, de temps, d'action, employer le mot propre et non plus la périphrase. Alors, c'est une façon de voir, de présenter les choses qui est un petit peu trop schématique. C'est-à-dire que quand on lit vraiment ce que les romantiques ont écrit sur les auteurs classiques, c'est-à-dire sur Corneille, Racine, Molière, La Fontaine, on voit qu'ils les adorent. Et je n'ai jamais rien lu sous la plume de Victor Hugo contre Corneille. Au contraire, il lui voue un culte contre Molière. Au contraire, il dit « Molière est la sommité de notre drame ». Donc, il ne faut pas enseigner aux élèves que les romantiques s'opposent aux classiques. C'est tout à fait faux. Hugo, il écrit des pièces qui sont en cinq actes et en vers, comme une tragédie classique. Il écrit des alexandrins magnifiques qui respectent la césure, c'est-à-dire la coupe à hémistiche, hein, six syllabes, six syllabes. Tous les vers de Hugo, dans le théâtre ou dans la poésie, respectent la césure à l'hémistiche. Même ceux qui sont construits comme des trimètres, qu'on dit romantiques ou cornéliens, 4, 4, 4. Dans 4, 4, 4, il y a quand même toujours, dans les 4 du milieu, une césure. En fait, c'est 4. Et puis le 4, c'est 2 plus 2 et 4. Donc le 4, 4, 4, on peut aussi le lire 6, 6. On le lit à la fois 4, 4, 4 et 6, 6. Les deux à la fois. Donc en fait, les romantiques, et si vous prenez Musset, qui a aussi une très, très grande admiration pour Molière, hein, par exemple, hein, eh bien, ils admirent énormément les auteurs classiques. Ce sont les critiques de l'époque romantique, les critiques néoclassiques, qui n'aimaient pas le romantisme. Donc, ce n'est pas le romantisme qui est un anticlassicisme, c'est le classicisme. Et le classicisme, ce n'est pas du tout la doctrine de Molière, Corneille, Racine. Ils sont classiques, mais ils ne sont pas classicistes. Eux, ils écrivent ce qu'ils ont envie d'écrire. Donc, c'est le classicisme de l'époque romantique qui est un anti-romantisme. Le romantisme revendique simplement la liberté d'écrire la pièce comme on veut, avec une unité de temps, pourquoi pas. Voyons, par exemple, le proverbe de Vigny qui s'appelle « Quitte pour la peur » respecte complètement l'unité de lieu et de temps. Le drame de Vigny, Chatterton, respecte complètement l'unité de lieu et l'unité de temps. Donc, ils veulent, mais simplement, s'ils veulent aussi écrire comme Shakespeare, en multipliant les lieux et avec un temps qui s'étale, comme le fait Musset pour Lorenzaccio, ou comme le fait Hugo pour Hernani, où on a un acte qui se passe à Aix-la-Chapelle alors que les autres actes se passent en Espagne, et donc on a évidemment des semaines et des semaines qui se sont écoulées entre un acte et un autre. Ils ont le droit, ils veulent simplement avoir le droit de faire ce qu'ils veulent, c'est tout. Ils veulent pas forcément mettre à bas les unités de lieu, de temps ou d'action, et l'unité d'action, elle est assez souvent respectée du reste, et l'unité d'action, elle était elle-même parfois mise en péril chez Corneille, par exemple dans le Cid, où on a l'action secondaire de l'infante qui est amoureuse de Rodrigue, action dont on pourrait se passer. Donc il ne faut pas opposer si nettement romantisme et classicisme, parce que sinon on met des étiquettes et puis on ne comprend plus.
Surtout si je parle sous le contrôle de l'université, en la personne de mon amie Florence, surtout si on part du principe que le romantisme c'est une... c'est pas une posture, enfin c'est une subversion, c'est une contestation d'un état établi. Et donc, j'ai envie de dire, nous on aura connu l'époque rock'n'roll qui a contesté les habitudes de pensée. Mais à ce compte-là, Molière en son temps est un romantique par rapport à son temps. Parce que c'est ça, hein, romantique, allons jusqu'au mot révolte même, en tout cas c'est une contestation, c'est une critique violente. Alors ils le font chacun dans leur temps avec un goût du temps, bien sûr, des obligations, des contraintes, des états politiques qui font que c'est pas commode, des états de censure. Mais en fait, quand on lit la Légion de la Pléiade de notre ami Georges
Forestier,
de Forestier dans Molière, on voit que Molière est tout ce que tu as dit sur le mélodrame, c'est un chef d'entreprise, ne parlons pas de Shakespeare en Angleterre, ce sont des gens qui ont construit leur théâtre, vécu leur théâtre, joué les grands rôles, enfin, et qui se sont chaque fois remis en cause, peut-être pas contre l'état établi, encore que si, mais enfin en contournant avec les difficultés de ce temps. Et c'est pour ça que le romantisme de Hugo est classique, dans ce sens qu'il est, il respecte des contraintes magnifiques et que l'art est en contrainte.
Oui, on avait consacré deux colloques, l'un à Rouen avec ma collègue Myriam Dufour-Maître, qui est spécialiste de Corneille, au Corneille des romantiques, et puis un autre à Paris cette année avec mes collègues Georges Forestier, donc spécialiste de Molière, Olivier Barra, spécialiste du romantisme, et Agathe Sanjuan, qui est la conservatrice de la Bibliothèque Musée de la Comédie Française, au Molière des romantiques. Et on y voyait bien que, justement, ils prennent Corneille ou Molière comme figure un peu identificatoire d'artistes qui veulent simplement avoir le droit de jouer, de monter ce qu'ils veulent, et qui sont obligés de composer, tant soit peu, quand même, avec une institution. Hein, parce qu'au théâtre, il ne suffit pas simplement d'avoir envie de créer quelque chose, il faut aussi se donner les moyens de composer avec l'institution qui existe. Hein, on ne peut pas tout créer ex nihilo. Et de toute façon, on n'invente jamais rien non plus complètement ex nihilo. On invente à partir de ce qui existe déjà. Donc l'histoire littéraire, elle se construit pas seulement par des ruptures qui pourraient être racontées mouvement après mouvement, mais elle se construit aussi par tuilage. C'est-à-dire qu'il y a des continuités aussi. Hein.
Absolument.
Et comme autre figure identificatoire, il y a Shakespeare dont tu parlais, et on voit bien que le point commun entre Molière, Shakespeare, Hugo, c'est d'être des hommes de théâtre qui... alors Hugo a eu à un moment un théâtre à lui, le théâtre de la Renaissance, ça n'a pas duré longtemps. Il n'était pas chef de troupe et comédien comme Molière et Shakespeare, mais c'est certain que cette image de l'entrepreneur
producteur,
voilà, fascine.
Très certainement.
Oui, oui, assurément.
Nous n'avons pas épuisé le sujet, mais le temps passe. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je crois qu'il est temps de remercier Florence et de vous renvoyer à la lecture de ce très, très, très intéressant et passionnant ouvrage qui s'appelle donc Le théâtre de Victor Hugo chez Ides et Calandes, qui est sorti cette année. Merci Florence, et à très bientôt sur la route pour d'autres aventures romantiques.
Merci à toi, merci à vous.